France Musique.
کجا نام او بود گرد آفرید؟ زمانه ز مادر چنین ناورید. زنی بود بر سار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پای به زیر. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترک رومی گره. که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کار از مود سران. چو سهراب شیروژن او را بدید، بخندید و لب به دندان گزید. برا شفت سهراب و شد چون پلنگ، که بدخواه او چارگار بود به جنگ. بیامد دمان پیش گرد آفرید، چو دخت کمند افکند او را بدید. سر نیزه را سوی سهراب کرد، انان و سنان را پرستا کرد. چو آمد خروشان به تنگ اندرش، به جنبید و برداشت خود از سرش. رها شد ز بند زره موی اوی، در افشان چو خورشید روی اوی.
France Musique. Planète Écora. Aliette Delalleux.
Dans ce pays, la poésie est un rythme intérieur, un deuxième souffle, une langue seconde. Mais les vers récités, lus, appris par cœur sont presque toujours l'œuvre des hommes. Presque, car certaines poétesses ont su se faire entendre, même dans les périodes les plus conservatrices. Nous sommes en Iran, au 19e siècle. Fatemeh, ou Tahereh Korat Ol-Ain, naît dans une famille religieuse. Son père, professeur, autorise sa fille à écouter ses cours. Très vite, Tahereh devient une jeune fille éduquée, passionnée par la littérature persane et par ce qui se passe dans la société. Très vite aussi, elle est mariée à son cousin à l'âge de 13 ans. Trois enfants plus tard, elle laisse sa famille pour partir en 1843 en Irak, sur les traces d'un réformateur religieux. Tahereh va enseigner à son tour et devenir une des voix du mouvement religieux naissant appelé babisme. Dans ses cours et ses textes, elle appelle à l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle souhaite une société plus juste pour les femmes. En 1848, lors d'une conférence publique, Tahereh retire son voile devant tout le monde. Ce geste symbolique n'est presque rien comparé à ses mots et à ses poèmes. Elle est placée en résidence surveillée, libérée, puis de nouveau incarcérée et subira le même sort que des dizaines de milliers de babistes violemment réprimés et tués dans les années 1850. La voix de Tahereh ne s'est jamais tue. Elle va inspirer d'autres poétesses du XXe siècle et continue d'être une lumière pour la société iranienne plongée dans l'obscurité. Dans notre émission aujourd'hui, nous évoquerons l'Iran, la voix des femmes, la poésie des femmes aussi, et des ponts culturels et artistiques entre Orient et Occident. Nous finirons avec un hommage au percussionniste iranien Jamshid Shemirani qui nous a quitté le 5 novembre dernier. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora. چگونه قطر قطر می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراری مرا
به کام میکشد، مرا به اوج میبرد، مرا به دام میکشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود. تو آمدی ز دورها دورها، ز سرزمین ستاره می کشانیم، فراتن از ستاره می نشانیم. کنون که آمدی تا بوجا، با شراب موج‌ها مرا بپیچ، در حریر بوست مرا بخواب، در شبان دی مرا دیگر رها بکن، مرا دیگر رها بکن، مرا از این ستاره ها جدا نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، تو میدمی و میدمی و تو می
The Sun Rises, avec les voix de Massa et Marjane Vardat, soutenues par le Kronos Quartet. Les deux sœurs chantent ici la poésie de l'iranienne Furour Farrokhzad. Bonjour Camille Bordet.
Bonjour Aliette.
Est-ce que vous connaissiez cet enregistrement ?
Non, je ne le connaissais pas et je suis très émue parce que ça vient du fond des temps, c'est magnifique. Merci pour la découverte.
Avec plaisir. Vous êtes chanteuse lyrique, Camille, passionnée par la musique, la culture, la langue persane. Vous portez un projet, le Livre des Reines, dont on va parler pendant cette émission. Pour commencer, une question, qu'est-ce qui vous a plongé dans l'envie de découvrir et d'apprendre la langue et la culture iranienne ?
C'est une histoire qui remonte à quand j'étais toute jeune, parce que j'avais 13 ans et j'avais regardé un film sur le commandant Massoud, qui est donc ce grand commandant afghan qui a été assassiné en 2001 et qui avait mené la résistance d'abord contre les Russes et puis ensuite contre les talibans. Et ce film m'a bouleversée à plusieurs égards. J'ai été fascinée par ce pays, fascinée par le courage de ces hommes et de ces femmes qui se battaient pour leur liberté, et aussi par le courage des Européens qui étaient partis là-bas, notamment des journalistes et des médecins, qui étaient partis là-bas pour aider Massoud dans sa cause. Et puis à un moment dans le film, Massoud récite des poèmes, parce qu'une des caractéristiques de la culture persane, c'est que la poésie est au centre de tout. Tout le monde connaît des vers de Hafez, des vers de Molana, qu'on appelle Rumi ici. Et je pense que c'est pour ça que cette culture m'a touchée en particulier. C'est une culture dans laquelle la beauté est au cœur de tout. Et donc, en l'écoutant réciter ses vers, que évidemment je ne comprenais pas du tout à l'époque, ce qui m'a fascinée, c'est que même si je ne comprenais rien, en fait, j'avais l'impression d'entendre de la musique. C'est une langue qui, quand elle est mise en poésie, c'est comme s'il y avait déjà un orchestre à l'intérieur, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça aussi fascinant.
Camille Bordet, vous parliez de la musicalité de la poésie. Je propose qu'on continue avec celle de Forol Farolzod, mais cette fois traduit en français avec la voix de l'actrice Golshifteh Farahani.
J'ai péché, péché dans le plaisir, dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché, péché dans des bras de fer, dans des bras brûlants et rancuniers. Dans ces lieux calmes, sombres et muets, j'ai regardé ses yeux pleins de mystère et des supplications de ses yeux, mon cœur impatiemment a tremblé. Dans ce lieu calme, sombre et muet, je me suis assise près de lui, agitée. Ses lèvres ont versé l'envie sur mes lèvres. Du chagrin de mon cœur fou, je me suis libérée. Une histoire d'amour, je lui ai raconté. Je te veux, mon bien-aimé, je te veux. Toi, dans les bras sont vivifiants, je te veux, toi, mon amour fou. L'envie a enflammé son regard, le vin rouge a dansé dans le verre. Et sur le lit doux, mon corps, ivre de volupté, sur sa poitrine a tremblé. Gonah kardam, gonahi pur zelazat, kenar peykari larzan o madhush. Khodavanda, che midanam che kardam. Dar an khalvatgah tarik o khamush, j'ai péché. Péché dans le plaisir. Près d'un corps tremblant et évanoui. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait dans ce lieu calme, sombre et muet.
Camille Bordet, on entend ici un poème traduit en français avec un tout petit peu de persan à un moment donné. Comment résonnent chez vous les vers des poétesses iraniennes ou persanes ?
C'est difficile de généraliser, ça dépend évidemment quel vers et quelle poétesse. Celui-là en particulier me bouleverse parce que c'est des choses que j'ai ressenties mille fois et de l'entendre de la part d'une femme à l'autre bout du monde qui a le courage de le dire, d'en faire quelque chose de magnifique dans un pays où c'est compliqué de pouvoir dire ça, et de pouvoir le vivre, et de pouvoir le crier, et de pouvoir l'exprimer avec toute la force dont on a besoin, c'est bouleversant. Après, quand je dis ça dépend vraiment des poèmes, c'est-à-dire que, par exemple, les poèmes les plus anciens, il y a beaucoup de choses qui me touchent dedans, et en particulier le fait de voir que finalement les émotions ne changent pas, quel que soit le moment où elles sont vécues. Et un amour d'il y a 10 siècles, c'est un amour, quoi. Alors après, évidemment, il y a plein de façons de le décliner. Il y a des amours qui sont aussi liés au contexte dans lequel on évolue. Mais j'ai l'impression que quand je lis ces poèmes de femmes, enfin quand je lis des poèmes de manière générale, mais en particulier des poèmes de femmes, c'est comme s'il y avait un fil invisible qui se tissait entre nous toutes et où on se disait, mais finalement, on est pareil. Et merci d'avoir ces mots parce que vous me permettez de dire des choses que je ressens et que vous dites mieux que moi.
Et ça a été un peu ça aussi la volonté du projet dont vous allez nous parler.
Oui, absolument.
Qui s'appelle Le Livre des Reines. Peut-être un petit mot sur ce nom, ça vient du Livre des Rois. Oui. Et recontextualiser et puis un peu nous parler de ce projet qui s'appelle Oui. Le Livre des Reines.
Alors, donc le Livre des Reines s'appelle le Livre des Reines après le Livre des Rois de Ferdowsi, qui est donc la grande épopée persane, qui a été écrite à cheval entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle. Et c'est un livre fondateur de cette culture, puisque c'est le livre qui a permis de sauvegarder la langue persane au moment des invasions arabes. En fait, la plupart des pays qui ont été conquis par les armées arabes à ces époques-là ont tous perdu leur langue. Et d'ailleurs, en Perse aussi, l'usage du persan a été interdit progressivement. D'abord, il n'a plus été utilisé dans les écrits. Il a été remplacé par l'arabe. Et puis, en fait, c'était vraiment plus possible de pratiquer cette langue-là. Et puis la langue, c'est aussi métissée avec beaucoup de mots arabes, etc. Et Ferdowsi a donc écrit toute cette œuvre qui raconte l'histoire mythique de l'Iran depuis la création du monde jusqu'à peu près au moment des invasions arabes, en faisant un peu une compilation de tous les mythes qui existaient sur la Perse. Lui-même s'est inspiré de plusieurs autres auteurs. Et l'idée, c'était donc de sauvegarder cette culture. Et aussi, lui, il a décidé de n'utiliser que des mots persans. Et vraiment, il le dit d'ailleurs au début, il commence le Livre des Rois en disant, voilà, je fais ça pour sauver ma culture, etc. Et pour qu'on n'oublie pas.
Et le Livre des Reines, alors.
Alors voilà, et donc le Livre des Reines. Bon, en fait, c'était un clin d'œil à cette œuvre. Et je me suis dit, surtout ce qui m'a intéressé dans le Livre des Rois de Ferdowsi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnages féminins qui ont des rôles qui ne sont pas forcément des rôles, entre guillemets, féminins qu'on attendrait typiquement.
Bah, notamment il y a beaucoup de guerrières.
Alors, il y a des guerrières, notamment Gurd of Ali, donc, qui est le poème que j'ai lu au début, qui n'hésite pas à se déguiser en homme et à prendre les armes contre le héros Sohrab. Mais il y a aussi des grandes amoureuses, des femmes qui choisissent aussi de vivre leur sexualité vraiment de manière... ce qu'on appellerait libéré aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui choisissent leurs amants, qui manifestent leurs désirs. Il y a des femmes qui ont des amours interdites. Il y a, voilà, enfin, je veux dire, ce n'est pas simplement des personnages secondaires qui sont là à attendre gentiment que les hommes reviennent, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très beau et je me suis dit, c'est important aussi qu'on entende parler de ces femmes-là et qu'on entende aussi parler du fait qu'il y avait ces personnages de femmes, y compris il y a très longtemps, dans ces cultures-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé le projet le Livre des Reines.
Et ces personnages, vous les mettez en écho avec des personnages plus proches géographiquement de nous, et notamment, je pense, à la Trobaïritz Azalaïs de Porquerague.
Oh.
Un aperçu musical de votre projet, le Livre des Reines, Camille Bordet. Vous interprétez ici un poème de la Trobaïritz, troubadour au féminin, qui s'appelle Azalaïs de Porquerague, accompagné à l'archilute par Alban Imms. C'est une musique qui n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Enfin, c'est une musique qui existait,
qui a existé.
mais qu'on a perdue. C'est le seul poème qui nous reste de Azalaïs de Porquerague. Et donc, ce qui nous a intéressé dans cette pièce-là, c'était de créer un dialogue entre les temps, entre le XIIe siècle et aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, évidemment, mon objectif n'était pas du tout de créer une mélodie ressemblant de près ou de loin à ce qu'elle aurait pu écrire. Je n'ai pas une démarche intellectuelle par rapport à cette musique. Mais j'ai récité le poème plusieurs fois, je me le suis approprié et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça m'évoque musicalement, dans quelle ambiance j'ai envie d'être. Et donc j'ai écrit une musique pour Azalaïs en me disant, voilà, de ton 12e siècle, tu m'envoies ce poème, moi, de là, je t'envoie ma musique. Et comme ça, on discute. je sais pas où tu es, si tu m'entends ou pas, mais en tout cas, on entame une discussion. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, avec les mots et avec les notes, c'est que finalement, on fait fi du temps et de l'espace et des contraintes qui y sont liées. On arrive à créer des liens avec des personnes disparues, ou en tout cas, ouais, des personnes oubliées, et à les faire revenir. Et c'est chouette.
On va poursuivre en musique avec votre choix musical, Camille Bordet.
Dil kişad گه به هرم گاه به سوی دیر مغام دل کشم گه به هرم گاه به سوی چه کنم در کف دی با نفت آدست بنانم چه کنم در کف دی با نفت آدست بنانم Oh,
Le choix musical de notre invitée Camille Bordet, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Camille ?
Vous avez écouté le Tasnif Rorneshin qui a été enregistré donc par Saina Zamanian et Mehdi, qui sont tous les deux dans le projet. C'est un Tasnif qui se traduit par habitant du chemin ou habitant de la route et qu'ils ont enregistré en Iran pendant la guerre contre Israël. La dernière guerre.
Un tasnif, peut-être vous pouvez préciser ce que c'est.
Le tasnif, c'est un des principaux genres légers de la musique iranienne. C'est un peu l'équivalent des ballades qu'on a chez nous. Et en général, c'est des chansons qui ont été composées assez récemment, donc soit fin du 19e, soit début 20e.
Et ces deux musiciens, musiciennes, font partie du projet Le Livre des Reines,
oui.
Qui est complété par d'autres musiciens. Vous êtes combien en tout ?
On est 7 au total. Donc il y a Mostafa Taleb donc, qui a été mon partenaire de scène pour monter tout ce projet, qui est donc au Kamanché, dont on entendra aussi des compositions. Mehdi Emami, qui est donc le chanteur qu'on vient d'entendre. Saina Zamanian au tar. Alban Imps à l'archilute. Yuna Prost au violoncelle. Myriam Encinas à la vielle, au cantele et aux percussions. Et qui est-ce que j'oublie ? Et moi.
Et vous, Camille Bordet, au
chant. Et moi au chant.
Et comment vous avez choisi le répertoire ? Il y avait donc cette envie de valoriser la poésie des femmes, mais pas que, c'est aussi des esthétiques. Comment vous avez choisi ce répertoire ?
Oui, alors c'est une bonne question parce que ça a été assez compliqué en fait de choisir le répertoire parce que d'abord, enfin en tout cas du côté iranien, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, des pièces composées par des femmes. Et puis, en fait, il devait certainement y en avoir plus, mais bon, en tout cas, on en a très peu aujourd'hui. Donc, il y a vraiment eu un travail de recherche qui a été fait par rapport à ça. Et d'ailleurs, nous, les pièces qu'on a choisies, en fait, elles sont attribuées à des femmes, mais on n'est même pas sûr à 100% de qui exactement les a composées.
Camille, vous êtes chanteuse lyrique. Là, vous abordez un répertoire qui est très vaste. Est-ce que vous avez une manière différente d'approcher le chant et l'interprétation face à ces morceaux ?
Non. Pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, je pars toujours du texte et j'essaie toujours avant tout de m'approprier le texte et de m'approprier le personnage. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse avant toutes les questions de style, de machin, c'est vraiment la transmission de l'émotion. Dans ce sens, je dirais que je fais de la musique peut-être plus comme une théâtreuse que comme une musicienne. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et après, bon, on parle des ornements, de tout ça. Donc l'opéra, je l'aborde exactement de la même manière. La seule différence, je dirais, c'est qu'évidemment, il y a une part d'improvisation qui est très forte quand j'aborde les musiques transculturelles. Et peut-être une part de liberté stylistique dans la mesure où je m'affranchis vraiment complètement des contraintes. Je ne suis pas du tout une chanteuse iranienne. J'ai étudié un peu la technique de chant iranienne, mais je ne prétends absolument pas chanter comme eux. Et d'une part parce que je ne suis pas iranienne et qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi, mais d'autre part aussi parce que j'ai envie que ça sorte complètement de mon univers et de ne pas essayer de faire comme d'autres.
De reproduire.
Voilà.
On va en écouter une de chanteuse iranienne pour le plaisir. Voici la voix de Parisa.
جستجوی تا
Dans le soupir de ma mort, je te désire ardemment. Mon âme, je la sacrifie pour être poussière sur ton chemin. Au matin de la résurrection, lorsque je lèverai la tête hors de la tombe, je me mettrai à ta recherche, je te parlerai. Même si les plus belles choses des deux mondes se réunissaient, je te chercherai du regard, je serai esclave de ton visage. L'histoire du paradis, je ne la raconte pas. La rose du paradis, je ne la sens pas. La beauté des vierges du paradis, je ne la cherche pas. Rapidement, je me hâte vers toi. Le vin du paradis, je ne le vois pas de la main de l'hôte. De vin, je n'en ai pas besoin. Grisé, grisé, je le suis par ton regard. Des milliers de déserts sont avec toi, faciles à traverser. Et même si je devais prendre le mauvais chemin, ô Saadi, je ne marche que vers toi.
La voix de la chanteuse iranienne Parisa sur un poème de Saadi dont la traduction a été lue par notre invitée Camille Bordet, une traduction faite par Isabelle Jus. On va poursuivre notre émission autour de l'Iran et de la Perse avec un autre extrait de votre projet, le Livre des Reines. Voici la composition de Mostafa Taleb intitulée « Gallo ».
Thank you.
Gallo avec Mostafa Taleb au Kamanché, Camille Bordet au Tombak, Yuna Proust au violoncelle, dans un air traditionnel arrangé par Mostafa Taleb. Camille Bordet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Mostafa ? Ça fait longtemps que vous faites plein de projets tous les deux.
Oui, on s'est rencontrés en 2022, je crois. Parce que je rentrais d'Arménie à ce moment-là et j'ai commencé à travailler avec Jordi Savall. Et il se trouve que la particularité de Jordi Savall, c'est qu'il travaille à la fois avec des musiciens européens et des musiciens qui font de la musique transculturelle, donc des musiciens de partout dans le monde. Et au moment où j'ai commencé à travailler avec lui, il y avait deux projets en même temps. Et donc, entre deux répétitions, je suis allée me reposer et puis je suis tombée sur Mostafa, qui donc jouait un instrument bizarre que j'avais jamais vu. Et donc, j'ai commencé à discuter avec lui. Et puis, c'était le moment où je recommençais à apprendre le persan. Et quand j'ai vu qu'il était iranien, donc on a commencé à discuter. Et puis, il m'a proposé de venir improviser avec lui et son ami Shahrob Azinmer, qui joue du tar et du setar. Et donc, on est parti improviser ensemble. C'était trop bien. Et il m'a proposé de rejoindre un de ses projets qui s'appelle Al Ranoun, qu'il a cofondé avec Jérôme Berthier, le claviériste. Et puis voilà, après, ça a été le début d'une longue histoire musicale. Enfin, longue à l'échelle
de
ma vie,
mais
voilà, un beau début d'histoire musicale.
Et l'instrument bizarre, c'est donc le kamanché, qui est un instrument à cordes frottées que l'on entendait dans cet extrait-là. On va se quitter avec Mille couleurs, c'est toujours un extrait de ce projet, le livre des reines, une de vos compositions, Camille Bordet. Et puis pour découvrir ce fameux projet, eh bien, rendez-vous le 27 novembre à l'Opéra de Dijon, dans le cadre du festival Les Nuits d'Orient et d'ailleurs. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Aliette.
Mon amour est si grand qu'il a mille couleurs qui dansent au-dedans de moi. Couleur de mort, couleur de joie, couleur d'avril et de dessin. Couleur du temps qui passe et ne fait que passer et qui glisse sur nous sans jamais nous user. Couleur de l'éternel, oui, celui qu'on jette dans un cri qui n'a peur de rien et que rien ne l'arrête et qui rit de demain. Parce que demain peut-être, malgré tout ce que tu pries, nous serons les prophètes de notre cachot gris. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, un aujourd'hui sans fin.
Mille couleurs, composition de Camille Bordet, arrangée par Alban Hims. On va continuer sur des notes iraniennes avec un hommage à un percussionniste qui a passé la majeure partie de sa vie en France et a permis à son instrument, le zarb ou tombak, de briller.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
J'ai reçu, quand j'avais 8 ans, un instrument en tant que cadeau de Nouvel An. Et à partir de là, j'ai été obligé, un peu obligé d'aller commencer à l'apprendre. Et j'ai eu un professeur qui m'a enseigné pendant quelques mois et puis m'a envoyé chez le maître. Il s'appelle Hossein Tehrani, c'était le plus grand maître de cet instrument qui est le zarb. Je suis allé chez lui et j'ai commencé à apprendre avec lui.
Cette voix, c'est celle de Djamid Chemirani, une voix qui s'est éteinte le 5 novembre 2025. Djamid Chemirani est né à Téhéran en 1942. C'est là qu'il découvre et apprend un instrument dont il est devenu l'un des plus grands noms dans le monde.
Cet instrument s'appelle le zarb, ou plus exactement le tombak. Le tombak, c'est un onomatopée. Et en frappant au bord de ce tambour, on dit que ça fait tom, et sur le bord, ça fait bak. Et c'est un instrument de percussion iranienne en bois, recouverte d'une peau d'agneau ou de chèvre. Quand je suis allé apprendre cet instrument, j'étais devant mon maître et il m'a montré du bout en blanc un rythme en le jouant.
et même pas montrer les frappes. Ouais. Alors il m'a dit, tu feras ça. Par exemple. Et bon, bah, j'ai été obligé de regarder comment il fait, que, l'entendre ce qu'il fait et d'essayer de le faire. Et ça se passait tout le temps comme ça.
Son maître, le musicien iranien Hossein Terhani, a révolutionné l'approche du zarb. Grâce à lui, cette percussion a occupé les devants de la scène de la musique traditionnelle savante iranienne. Et surtout, Terhani a permis au zarb d'exister autrement que comme instrument d'accompagnement.
La mélodie est très importante et il faut savoir accompagner. Et la manière d'accompagner, c'est d'abord de rester en arrière, trouver un rythme qui met plutôt la mélodie en valeur. Et comme il y a beaucoup d'improvisation dans la musique iranienne, c'est long d'apprendre à prévoir la mélodie qui va venir. Et c'est pourquoi que dans l'enseignement, il y avait des chants qu'on apprenait et on s'accompagnait en chantant, parce que quand on fait les deux en même temps, on se rend compte qu'est-ce qu'il faut exactement pour ne pas nuire au chant et ne pas nuire à la musique. Autrefois, les chanteurs étaient les joueurs de zarb. Eux-mêmes, ils jouaient du zarb, de la percussion, et ils s'accompagnaient. Et mon maître était pareil, il chantait en même temps et il s'accompagnait.
Au début des années 60, Djamid Chemirani quitte l'Iran pour faire ses études en France, des études de mathématiques qu'il abandonne assez rapidement pour se consacrer uniquement à la musique.
À Paris, quand je suis arrivé, j'ai rencontré les gens qui s'occupaient d'un organisme qui s'appelle CEMO, Centre d'études de musique orientale, qui était à Sorbonne. Et tout de suite, ils m'ont invité à enseigner là. Et très vite, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus, qui se sont intéressés à cet instrument. Et donc d'autres musiciens qui sont venus m'ont proposé de travailler avec eux. J'ai accompagné des danses contemporaines. Et puis petit à petit, je suis rentré dans la vie active musicale ici en France.
En 1976, Djamid Chemirani sort un disque improvisation sur le zarb qui deviendra une référence dans le monde des musiques traditionnelles.
Dans le zarb, il y a un côté mélodique. Et c'est surtout ce côté mélodique du zarb qui aide celui qui en joue d'improviser. Les instruments de percussion, moi je trouve qu'ils ont une mélodie aussi. Chaque son a une mélodie. Par exemple, ce truc-là. Pour moi, ça a une mélodie. Surtout le zarb, c'est un instrument qui est beaucoup plus mélodique dans les instruments de percussion que les autres instruments que je connais.
Après son disque en solo, Djamid Chemirani va passer sa vie à jouer avec d'autres. D'abord avec des musiciens iraniens comme Majid Kiani, joueur de santour, ou Dariush Talai, joueur de tar. Et puis avec des artistes d'autres cultures, esthétiques et univers. Son instrument dialogue aussi bien avec la lyre crétoise de Ross Dali qu'avec la kora de Balaké Sissoko. Son jeu va faire danser sur des chorégraphies de Maurice Béjart ou Caroline Carlson, mais c'est peut-être au sein de sa propre famille que les collaborations les plus marquantes vont naître.
C'est une grande surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout que mes enfants un jour se mettent à jouer, surtout en France, le même instrument que moi, avec tellement de passion et d'ardeur. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est magnifique. D'autant plus que par la suite, on a commencé à jouer ensemble et à faire des choses ensemble. On commençait à improviser tous les trois. Et dès qu'on voyait qu'à un moment donné, ça allait bien, on s'arrêtait, on fixait la chose qu'on était en train de jouer et on repartait sur l'improvisation. Donc c'était sur l'improvisation. Et puis à partir des rythmes qu'on retenait, le débat était ouvert. Kevin disait un truc, tout de suite on le mettait en route, et Bijan disait autre chose, et moi je disais autre chose. C'était un travail collectif sans que l'un puisse être le chef, ou c'est ça qui était intéressant et important.
Avec ses deux fils, Kevin et Bijan, ils fondent le trio chez Mirani en 1988, publient un premier disque intitulé sobrement Trio de Zarb, puis d'autres artistes s'invitent sur les albums du trio. Au-delà de la musique, ce qui ne quittera jamais Djamid Chemirani, c'est la place pour la poésie.
Dans la culture persane, nous avons une multitude de poètes qui ont des choses à dire très importantes sur l'être humain, sur la vie, sur tout ce qui nous entoure. Et les lire, ça apporte non seulement quand on écoute une belle musique et on est vraiment pris à l'intérieur de ils ont le même effet sur moi, ces poésies, comme Rumi par exemple, on parlait tout à l'heure, et d'autres. Et en même temps, on apprend, en même temps, ils nous rassurent, en même temps, ils nous poussent à agir ou réagir. Et donc, à chaque fois, ça m'est vraiment quelquefois indispensable de m'adresser à eux. Oui.
En fait, il y a tout un répertoire que j'ai déjà appris avec mon maître, rythmiquement, et que ça existe, comme on en parlait tout à l'heure, dans la poésie iranienne. La poésie iranienne, c'est rythmé, et les rythmes qui sont à l'intérieur sont très, très intéressants. Or, pour peu qu'on les lise, on s'en influence, si vous voulez.
Vous pouvez nous donner un exemple ?
Par exemple, « Aumad bareman, andel bareman, zendesh shodazu, jaun taneman ». Vous voyez, c'est très rythmé et c'est égal.
Dans la famille Chemirani, il y a les filles aussi. Mariam Chemirani, sœur de Kevin et Bijan, s'invite dans le trio qui devient l'ensemble Chemirani, dans lequel les frères et le père portent la voix de Mariam avec différents instruments et la complicité d'autres musiciens, à l'image ici du flûtiste Sylvain Barreau. از عاشقان نشانه کبه دل بشکسته را میبرم به خانه کبه شکایت میبرم از تو بر خدای دوزان Jamshid Chemirani avait le don de transmettre sans jamais pousser, ennuyer ou juger. C'était un aussi grand musicien que pédagogue, avec le souci perpétuel de ne pas se hisser au-dessus des autres. Jamshid Chemirani jouait avec les autres et a permis aux Arbes d'emprunter de nombreux chemins jusqu'alors inexplorés. Merci à Max James pour la réalisation de cette émission, à Cédric Chatelus pour la technique et Maud Nourry pour la préparation. Vous pouvez écouter Planète Okora sur l'application Radio France, sur le site de France Musique. Bonne journée et à samedi prochain, 14h sur France Musique.
France Musique.